tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale.
Janvier 2023, le groupe aéronaval était déployé au nord de l'océan Indien pour la mission Antares. À cette occasion, trois rafales marines ont été catapultées du porte-avions Charles de Gaulle avec pour mission de rallier Singapour à 4000 km de là. Nommée Rastaban, cette projection aérienne a constitué une première pour la marine française. Cela a prouvé qu'on peut envoyer des aéronefs depuis la mer sur une longue distance et vers une zone stratégique. Ensuite, pendant les quelques jours où ils sont restés à Singapour, les pilotes français ont réalisé des missions d'entraînement au combat avec l'armée de l'air de Singapour. 10 jours plus tard, les avions ont fait le chemin inverse et ont rallié le Charles de Gaulle. Cette mission a constitué à la fois une prouesse technique et une démonstration de présence dans une région maritime où les tensions sont fortes. Pour nous en parler, et avec quelques mois de recul, nous recevons aujourd'hui le capitaine de vaisseau Forissier, chef d'état-major du groupe aéronaval qui a été au cœur du montage et de la conduite de l'opération Rastaban. Commandant, je vous remercie de répondre à nos questions.
Oui, bonjour, très heureux de pouvoir partager avec vous sur cette belle mission.
Merci, commandant. Alors justement, pour commencer, pouvez-vous nous dire un peu en quelques mots comment est né ce projet et un peu quels étaient les objectifs ?
Oui, bien sûr. En fait, tout a débuté lors des travaux de planification de la mission Antares, qui était composée de deux parties, une première en Méditerranée et puis une deuxième partie en océan Indien. Et lorsqu'on a travaillé sur la planification de cette deuxième partie, on voyait le groupe aéronaval basculer de l'autre côté du canal de Suez en océan Indien pour renforcer les coopérations opérationnelles dans la zone avec ses principaux partenaires. Et bien à ce moment-là, nous cherchions à optimiser cette présence du groupe aéronaval dans cette zone particulière et à montrer notamment sa capacité à rayonner sur l'ensemble de l'océan Indien. Cette mission en océan Indien, elle avait pour point focal l'exercice Varuna en Inde et malheureusement la durée de la mission ne nous permettait pas d'aller au-delà. Après cet exercice, il fallait que le groupe aéronaval fasse demi-tour, revienne vers la Méditerranée, notamment parce qu'il était attendu pour l'exercice Orion, l'exercice interarmée qui a été conduit à la fin de ce déploiement. Et donc, c'est assez naturellement que l'on s'est tourné vers les capacités du groupe aérien embarqué, qui offrait cette possibilité d'étendre l'ombre portée par le groupe aéronaval en océan Indien. Le projet, il est né ainsi. Et donc, assez naturellement, on s'est tourné vers Singapour. Pourquoi Singapour ? Parce que c'est un partenaire clé de la zone, qui se trouve géographiquement située entre les océans Indien et Pacifique. Et donc, c'est comme ça qu'on a finalement défini cette mission.
Alors justement, en parlant de définition un peu, comment avez-vous trouvé le nom de cette opération ?
Alors, ce nom, il est toujours important. Comment qualifier, comment baptiser une telle mission, comme vous l'avez dit, inédite pour la marine ? En fait, assez naturellement, là aussi, on s'est tourné vers le nom d'étoile. Pourquoi ? Parce que Antares, le nom de la mission du groupe aéronaval, est une étoile de la constellation du Scorpion, qui s'inscrit plus globalement dans le projet Polaris, dans l'esprit de Polaris, qui est la marque de fabrique de la préparation opérationnelle à la haute intensité. Polaris, bien sûr, ça fait écho à l'étoile polaire. Et donc, on a choisi le nom de Rastaban. Rastaban, c'est une étoile de la constellation du Dragon. Et là, on avait un clin d'œil tout trouvé avec la zone Indo-Pacifique.
Alors justement, comme vous venez de le dire, commandant, cette opération a constitué une première pour la marine française. Et on peut quand même imaginer que cette mission a été difficile à organiser et à réaliser. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles ont été les difficultés rencontrées ?
Je dirais que la première, elle a été liée au facteur temps. Pourquoi ? Parce que cette mission a été finalement déclenchée quelques semaines avant son exécution, même si les travaux de planification avaient anticipé en amont un certain nombre de choses. Et puis surtout, elle a nécessité l'implication de nombreux acteurs qui se trouvaient géographiquement très éloignés les uns des autres, travaillant dans des fuseaux horaires différents.
Est-ce que vous pouvez un peu les détailler ?
Bien sûr, je commencerai par parler d'Alavia, bien sûr, l'autorité organique du groupe aérien embarqué à bord du porte-avions, la base aéronavale de Landivisio, où sont basées les flottilles de Rafale, et qui a apporté le soutien logistique. L'état-major de la marine à travers l'EMO, l'état-major des opérations de la marine, à Paris, qui pilotait tout ça. À l'Indien, l'amiral commandant les forces armées déployées en zone océan Indien. On était sous son contrôle opérationnel dans cette zone-là. Alpaci, qui est son équivalent pour la zone Pacifique, puisque Singapour se trouve dans la zone de responsabilité permanente d'Alpaci. La mission de défense, bien sûr, basée à Singapour. L'état-major du groupe aéronaval embarqué sur le Charles de Gaulle, dont j'assurais la direction. Mais aussi le Centex, le centre d'expertise du groupe aérien embarqué. Et puis, bien sûr, la flottille embarquée à bord du porte-avions, la 12e.
Ah oui, effectivement, ça fait quand même un sacré nombre de fuseaux horaires. Mais justement, est-ce qu'il y avait aussi potentiellement, on peut le supposer, mais des contraintes logistiques ?
Bien sûr, on imagine bien que déployer 3 avions de chasse sur une certaine durée, ce sont des avions performants mais en même temps très complexes qui ont véritablement besoin d'un soutien déployé localement. Et donc, au niveau logistique, il a fallu constituer un lot composé de pièces choisies. Alors on a volontairement pris un lot réduit pour limiter les contraintes de transport sur cette longue distance depuis la métropole. Et on a sélectionné les pièces qui permettaient de répondre aux pannes les plus probables, de manière à pouvoir entretenir, dépanner les avions sur place. La confection de ce lot, elle a été soumise à de nombreuses contraintes. Bien sûr, la taille et le poids pour rentrer dans un nombre réduit d'avions. Il fallait chercher la non-redondance avec des moyens qui pouvaient être prêtés sur place par notre partenaire singapourien, etc. Dernier point peut-être sur cet aspect logistique, c'est bien évidemment l'accueil des équipes sur place avec tout ce que cela implique. L'hébergement, la restauration, le soutien sanitaire, la surveillance des éléments sensibles qu'on déploie avec les avions. Bref, tout ça a été largement facilité par l'excellent travail qui a été fait sur place par la mission de défense qui nous a beaucoup aidés.
Alors commandant, je rappelle que vous êtes chef d'état-major du groupe aéronaval qui a été au cœur du montage et de la conduite de l'opération Astaban. Alors commandant, on peut imaginer aussi que cette mission était aussi contraignante pour les pilotes. Comment ça s'est passé de leur côté ?
Pour répondre à cette question, je me suis naturellement tourné vers le commandant de la flottille, Douzef, qui a participé à ce vol-là. Et donc je vais finalement traduire un peu ce qu'il m'a rapporté. Il me disait que la préparation des vols du transit finalement a été facilitée par tout le travail qui a pu être fait en amont. Les demandes d'autorisation de survol, l'étude des conditions météo sur le transit, la coordination avec l'avion ravitailleur projeté depuis la France, ou encore l'exploitation très riche du retour d'expérience des missions que l'armée de l'air avait pu réaliser auparavant. Tout ça, tout ce travail amont finalement a été fait suffisamment tôt pour faciliter cette séquence de transit.
Donc il n'y a pas eu spécialement de difficultés ?
Sur la préparation en tant que telle, pas vraiment. La partie la plus complexe de la préparation, c'était peut-être liée à l'anticipation des aléas. On appelle les what if dans nos travaux de planification de mission. Il s'agit de définir le comportement à adopter en cas de panne quand on est au-dessus de l'eau, à des centaines de nautiques de toute terre. Effectivement, il faut se poser les bonnes questions et anticiper tous les cas possibles, en cas de difficulté de ravitaillement aussi, par exemple, et puis, bien sûr, en cas d'éjection, si jamais on en arrive à cette extrémité-là.
Donc les what if, c'était un peu les événements aléatoires, la principale difficulté à anticiper pour les pilotes, c'est ça ?
Exactement, en fait c'est tous les cas non conformes auxquels les pilotes peuvent se trouver confrontés pendant cette mission particulière qu'il s'agit d'identifier en amont pour définir la meilleure réaction à adopter si jamais on y est effectivement confronté. Pour continuer à répondre à la question, la réalisation de la mission en elle-même, elle n'a pas présenté de difficultés particulières. Si on parle de la durée du vol par exemple, elle est plus courte que certains vols réalisés en opération de combat et donc les pilotes sont familiarisés avec les spécificités de ces longs vols. En revanche, les opportunités de survoler cette zone-là, dans laquelle on n'est pas habitué à opérer, survoler l'ensemble du sous-continent indien, survoler l'océan indien, survoler le détroit de Malacca, c'est des opérations particulièrement rares et donc les pilotes ont énormément profité de cette expérience hors du commun pour parfaire leur connaissance de la zone et ses particularités.
D'ailleurs, commandant, j'en parlais un peu en introduction, mais nos pilotes se sont entraînés avec les forces armées de Singapour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ont consisté ces exercices ?
Oui, bien sûr. Je disais que la mission Astaban, elle s'était inscrite dans le cadre de l'opération Antares, elle-même inscrite dans l'esprit Polaris. Et donc, les missions conduites là-bas, à Singapour, elles ont été focalisées sur le combat aérien, principalement. Il y avait un double objectif. Le premier, c'était d'entretenir notre interopérabilité avec le partenaire singapourien. Entretenir l'interopérabilité, c'est-à-dire s'assurer que nous partageons les mêmes méthodes de travail, mais aussi les mêmes règles de sécurité, et que nous parvenons à coopérer ensemble de manière efficace dans la réalisation de la mission. Cette interopérabilité, finalement, c'est vraiment la clé d'une capacité à combattre ensemble, si nécessaire, et donc elle doit être entretenue pour éviter que chaque pays diverge, notamment dans ses procédures. Le second objectif, c'était de se confronter à des aéronefs différents du Rafale, des avions avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, avec des forces et des faiblesses distinctes de ces avions, dans un climat différent, un environnement aéronautique particulièrement riche et complexe, là aussi dans lequel on n'a pas l'habitude de travailler. C'est pas ce qu'on rencontre en métropole. Et puis tout ça au-dessus de la mer de Chine méridionale, dont on connaît les enjeux stratégiques actuels.
Alors, commandant, vous venez d'en parler il y a quelques instants, mais est-ce que vous pouvez détailler un peu votre point de vue sur Singapour ? Pourquoi ce choix de Singapour, précisément ?
Oui, c'est vrai que j'ai déjà un peu parlé des raisons qui nous ont poussé à choisir Singapour. Ce que je pourrais rajouter, c'est que la France, eh bien, c'est un pays riverain de l'océan Pacifique, et donc, à ce titre, elle partage avec Singapour les mêmes objectifs stratégiques, notamment de stabilité de la région et de défense du droit international. Il y avait aussi la nécessité de consolider un point d'appui situé à la charnière de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Et puis ensuite, Singapour, c'est aussi la performance de ses forces armées qui nous a attirés, le haut niveau d'interopérabilité déjà atteint avec ses forces armées.
Et puis vous avez pu un peu renforcer les liens avec Singapour.
Exactement. Et donc tout a confirmé finalement, à travers le retour d'expérience qu'on a acquis de cette mission, que ce choix était le bon.
Alors justement, commandant, on a parlé de Singapour. Je rappelle par ailleurs que vous êtes chef d'état-major du groupe aéronaval qui a été au cœur du montage et de la conduite de Rastaban. Alors maintenant, avec quelques mois de recul, quels enseignements, selon vous, est-ce qu'on peut tirer de cet exercice ?
Je commencerai par dire que l'élongation atteinte pendant Rastaban était inédite. Cela a été la plus longue mission de projection de puissance opérée depuis le groupe aéronaval et réalisée avec le soutien des avions ravitailleurs de l'armée de l'air. Et donc, à travers Rastaban, on a montré notre capacité à projeter, sous faible préavis, des avions de combat à une distance importante, non seulement du port-base, mais aussi du porte-avions, qui continuait, lui, pendant ce temps-là, à opérer dans une zone distincte. Rastaban a aussi montré, je dirais, la capacité du groupe aéronaval à rayonner dans l'ensemble de l'océan Indien, dont la France est aussi riveraine, au même titre que dans l'océan Pacifique, avec la Réunion, avec Mayotte, avec les terres australes, dans le sud de l'océan Indien. En plus de cela, notre coopération avec Singapour a été singulièrement renforcée à travers cette mission. Ça a donné lieu à de nombreux échanges, tant au niveau tactique qu'entre les autorités locales et la mission de défense française. Nos pilotes, de leur côté, ont pu échanger leur savoir-faire. Ils ont pu renforcer leur interopérabilité avec leurs homologues pilotes singapouriens.
Et puis aussi leur connaissance de la zone.
Bien sûr, ils ont leur connaissance de la zone. Mais pour revenir sur les interactions avec les pilotes, je disais qu'on recherchait à travailler avec des avions avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler régulièrement. Là, on avait des pilotes de F-15, de F-16, de l'armée de l'air singapourienne avec un très au niveau tactique, des pilotes très professionnels qui ont été vraiment très bénéfiques en termes d'apprentissage et de retour d'expérience pour nos pilotes de Rafale. Et donc au bilan, je crois qu'on peut dire que ce déploiement est une expérience véritablement unique, riche d'apprentissage pour les pilotes, comme je le disais, mais aussi pour le détachement logistique qui les a soutenus sur place. Et d'ailleurs, à ce titre, je profite pour souligner l'excellent soutien logistique qui a été fourni par la base aérienne singapourienne de Paya Lebar pendant toute la durée du déploiement.
Alors, commandant, vous venez de parler de la capacité d'élongation, de la prouesse technique que ça a été. Est-ce une manière un peu de dire que mais finalement, tous les points de l'océan, ou presque, sont accessibles aux avions de chasse embarqués?
Bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, il offre, à travers son groupe aéronaval, une véritable autonomie. Et donc, les avions de chasse qui sont embarqués à bord du Charles de Gaulle, ils peuvent effectivement opérer, sous faible préavis, à n'importe quel endroit des océans du globe. Ça, c'est la caractéristique première du groupe aéronaval constitué autour du porte-avions.
Et c'est ce qui a été aussi prouvé par cette opération.
Exactement. Et cela a montré toute la force du porte-avions qui possède cette liberté d'action exceptionnelle. Il peut évoluer sur tous les océans et mettre en œuvre son groupe aérien embarqué. Et ce qui est important, c'est que dans le contexte actuel du retour de la guerre en Europe, dans le contexte du réarmement massif d'un certain nombre de nos compétiteurs, eh bien, il n'est pas inutile de démontrer cette capacité à agir loin, à agir de façon massive et coordonnée, si besoin en jouant sur l'effet de surprise, tout en tenant, et ça aussi c'est important, le porte-avions à distance des armes adverses, le tout avec une vraie capacité de délivrance d'armement, qu'il soit conventionnel ou non.
On arrive justement à la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le futur, des opérations encore plus lointaines, au-delà de 4000 km ?
Je crois effectivement qu'on pourrait, en effet, imaginer aller au-delà de l'élongation de Rastaban. Alors, bien évidemment, il y a des limites techniques, mais ces limites techniques, elles peuvent être repoussées, d'une part, à travers la réalisation d'actions de maintenance spécifiques, et puis en adaptant le cadre réglementaire, le tout dans un état dans un esprit de maîtrise des risques, bien sûr. Il y a aussi, je dirais, les limites physiologiques pour nos pilotes. Mais là aussi, on pourra sans doute chercher à les dépasser selon la nature de la mission et bien sûr, la prise de risque acceptable. Enfin, ce qui est vraiment déterminant, ce sont les capacités de ravitaillement en vol, qu'elles soient d'ailleurs nationales ou alliées, et puis les points d'appui disponibles pour accueillir nos aéronefs à l'issue de leur mission. En tout état de cause, et pour conclure, je dirais que la tendance globale à la dilatation des échelles du combat naval tactique milite en effet, dans tous les cas, pour chercher à augmenter la longe de nos capacités.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, commandant, de vous être prêté à l'exercice. Je rappelle que vous êtes le chef d'état-major du groupe aéronaval qui était au cœur du montage et de la conduite de l'opération Rastaban. À tous nos auditeurs, on se retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.